Alors, maintenant que j'ai mis tous ces préambules, je vous plante le décor. Le décor, c'est une époque où, à partir du 4e siècle, enfin, l'Empire romain s'est écroulé. À partir du 4e siècle, ici et enfin, un peu ailleurs, ça, je vais dire, ça part en autre boudin. C'est-à-dire qu'il n'y a que les élites qui ont des villas, comme il y en a à Plestin-les-Grèves, par exemple, ou qui commercent le garum, c'est-à-dire le... Je ne sais plus comment on appelle ça, le poisson pourri, mais c'est pas ça, le Diocman, enfin bref. Il n'y a qu'eux qui sont romanisés. Les autres se débrouillent comme ils peuvent entre l'enseignement, les enseignements anciens, armoricains, celtes, mais pas forcément bretons, vous voyez, hein, leur dieu, et puis l'enseignement des druides, et les druides vont d'un côté à l'autre, beaucoup de druidesses aussi, mais eux ils n'écrivent pas, donc on ne sait pas trop, enfin c'est tout est oral et tout ça, il y a le chêne, le gui, tout le monde entend parler de ça, hein. Et ça commence à aller mal vraiment à la fin du 4e siècle, on le sait, en particulier dans l'archéologie, parce qu'il y a énormément de trésors enfouis à cette époque. Les gens. Et puis on voit beaucoup d'anciennes villas qui sont incendiées, on a des traces d'incendie, enfin, on sait que ça allait très mal, quoi. Et de l'autre côté, en Armorie, de l'autre côté de la mer armoricaine, qu'on appelait comme ça, après on a changé, on l'a appelé la Manche, je ne sais pas trop pourquoi. De l'autre côté, il y a des armoricains aussi, d'ailleurs, mais qui sont, les Britons sont arrivés là. Et les Britons, c'est les Bretons, hein. Ils sont arrivés là et eux, ils ont bien assimilé, ils ont bien reçu l'enseignement chrétien. Ils ont bien reçu, en particulier, aidés aussi par les Irlandais. Les Irlandais, les Romains ne sont jamais allés en Irlande. Donc du coup, en Irlande, il n'y a pas eu l'imprégnation de la culture romaine, ni les dieux. Donc voilà, c'est arrivé. Donc, il y avait, vous savez, on parle de Saint-Patrick ici, enfin, etc. Roscoff est lié à Saint-Patrick, enfin bref. Donc, ils ont commencé à vivre, alors ils prenaient des noms romains, comme par exemple Porphyre, il y a un autre nom entre les deux, Aurelianus, c'est le père de Paul Aurelianus. Hein? C'est le père, c'était un chef... Maintenant, on traduit un conte, enfin bon, on pourrait dire n'importe quoi. Enfin, c'était un dominant qui avait plein de soldats, d'esclaves, et de, comme tout, comme c'était à l'époque. À l'époque, ça gênait pas du tout, on ne les voyait pas dans le paysage des esclaves. On ne voyait pas compte. Hein. Et donc, ils étaient là, mais ils commençaient à avoir la pression des Angles et des Saxons. C'était, et ici, de l'autre côté, c'était la pression des Francs. Parce qu'il y avait, il y a eu... Là, c'était une invasion. Une invasion qui était tenace, mais progressivement qui s'est aussi adaptée, parce qu'on s'adapte. Ils sont adaptés au christianisme. Donc, c'est comme ça qu'on dit que Clovis s'est converti. C'était probablement mieux comme ça, c'était mieux pour influencer tout le monde. Enfin, on ne sait pas trop, hein, après tout. On n'est pas dans l'âme de Clovis. Mais bon. Toujours est-il qu'ils ont commencé à migrer beaucoup dans ce qu'ils appelaient la Petite Bretagne. Ils étaient en Grande-Bretagne, oui, ils migraient dans la Petite Bretagne. C'était des cousins. Ils se comprenaient. Donc ce sont des migrants, mais des migrants plutôt... c'était entre les deux, hein, parce qu'ils fuyaient quand même, quelque part. Cette poussée qu'il y avait, puisque constamment, dans le continent eurasiatique, et puis même avant l'Afrique, enfin bref, il y a eu une poussée comme ça, constamment, d'est en ouest. Hein. Nous, en Bretagne, mon maître, parce que j'ai deux maîtres, deux grands maîtres, mon maître Gabriel Monoerven, qui était un grand chercheur en physique quantique sur la lumière, universitaire, me disait, la Bretagne, c'est un cornet comme ça, du continent eurasiatique. Et finalement, à chaque fois, on arrivait là, on ne pouvait pas aller plus loin. On n'allait pas plus loin. Donc, il y a des couches successives. Il y a énormément de personnes qui sont arrivées. Donc là, il y a eu beaucoup de vagues de migrants, et en particulier ce qu'on a appelé des saints, qui étaient peut-être des saints aussi. Saints, ça veut dire sanctus, c'est mis à part. Hein. Donc, ils étaient un peu à part, quoi. Hein. Donc, voilà le paysage, avec un détail qui est encore d'actualité, la mer monte, le niveau de la mer monte. Par exemple, entre l'Angleterre et puis la Terre des Angles, attendez, la Terre des Angles, et la Petite-Bretagne, on a retrouvé, il y avait un fleuve, qui peu à peu, on a retrouvé récemment d'ailleurs, enfin il y a une dizaine d'années, mais c'est très récent, on a retrouvé des traces de campements de chasseurs de mammouths qui campaient au bord du fleuve. Imaginez, au milieu, de toute façon, il n'y a que 80 mètres de profondeur, hein, c'est pas grand chose, hein, dans la Manche. Donc ils étaient là. Et on a, chez nous, plus proche de l'histoire, pas dans la préhistoire, plus proche de l'histoire, au début de l'histoire, enfin si je mets dans l'histoire, le néolithique, hein, donc l'âge de la pierre taillée, entre l'île de Bas et Saint-Paul-Roscoff et tout ça, il y avait une rivière aussi, c'est le Chenal. Et ça a monté, monté, monté. Et à l'époque où était Paul Aurélien, l'île de Bas était séparée du continent et reliée en même temps par un cordon, comme le cordon de la place Chatane, pour les Saint-Paulitains, comme l'île de Siècle, comme l'île Calotte, enfin, vous voyez, c'est-à-dire que il y avait, c'était le bout du bout, mais on pouvait passer, au moins à marée basse. Et d'ailleurs, il ne se privait pas, le conduit turc qui habitait en île de Bas, parce que comme ça, il était protégé de toute invasion, parce que tout le monde est obligé de passer par ce étroit passage seulement à marée basse. Il y avait ce qu'il appelait un presgolban, c'est-à-dire un droit de passage, et il fallait payer. Il fallait montrer patte blanche aussi. Donc voilà le paysage où ça se passe. Maintenant, je reviens à son histoire, à Paul Aurélien. Paul Aurélien, premier enfant, fils aîné, donc voué à reprendre le royaume, je ne sais pas comment l'appeler, parce qu'il y a plusieurs noms, de son père, est extrêmement doué en plus. Et il y a 9 enfants, 3 filles et 7 garçons, c'est ça? Donc vous voyez les chiffres. Hein, comment? Et 6, alors. Ah oui, mais lui, il est au-dessus. Voilà, il est avant. Il a ses frères et sœurs. J'ai oublié, c'est ses frères et sœurs. Et en fait, son père veut en faire donc tout de suite un grand chevalier et aller faire ses classes. Vous savez, comme faisaient les chevaliers. Enfin, après, on a codifié au Moyen-Âge, mais ils allaient chez les autres apprendre les armes, etc. Et il dit, moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux être un savant. Je veux aller aux écoles. À l'époque, aux écoles, apprendre. Il voulait apprendre les langues, il voulait apprendre l'histoire, il voulait lire l'histoire de Jésus dans le texte. Et il veut aller apprendre auprès de Saint-Hildut. Saint-Hildut, c'est un Gallois comme lui. Et Saint-Hildut, il y a Samson, le premier qui est arrivé ici en barque de pierre, soi-disant, celui qui était l'archevêque de Bretagne, qui était installé à Dol de Bretagne, qui était même pas un évêché, un archevêché, mais qui était chanté à la Révolution, comme ici, l'évêché d'ici. Et donc, Hildut leur les enseigne. Il est jeune, il a 12, 13 ans maximum. Il apprend, il est très doué, il apprend tout. Et à 15 ans, il dit à Hildut, moi, maintenant, je veux fonder un monastère. Je veux me retirer. Je veux être ermite, mais j'ai mes camarades qui veulent me suivre. Il y en a 12. Ça vous rappelle pas quelque chose, hein? Il y en a 12. Et on va y fabriquer un petit monastère dans le désert, c'est-à-dire dans un endroit désertique. Mais c'est pas un désert comme un désert de sable, hein, ailleurs, quoi, en tant qu'ermite. Et Saint-Hildute se rend compte qu'il y a eu un miracle, mais je vais passer ça, parce que j'en aurai d'autres miracles, alors je ne peux pas les raconter tous. Donc il se rend compte que, de toute façon, il a affaire. Alors, Albert le Grand dit non plus un disciple, mais un ami, un frère. Un saint comme lui. Il le laisse aller. Donc il a 15 ans, et il bâtit une petite chapelle, et puis il a besoin des petites huttes en branchage ou en pierre. Des fois c'est en pierre. Vous savez les pierres qu'on voit encore dans les bourrilles, les pierres qui font comme des igloos. Et on en voit plein en Irlande. Alors là, en Irlande, il y en a plein, plein. Et donc, il se consacre à la prière et à l'étude. Et de temps en temps, ils se réunissent pour se confesser dans le sens, le premier sens de la confession, c'est-à-dire professer ensemble, comme leur foi. Et dire ce qui va, ce qui ne va pas. Enfin bref, ils font, une dynamique de groupe. En même temps, voilà. Ça marche bien, il est très content, mais le roi de Pays de Galles, hein, le roi Marc, qui je ne sais pas ce qu'il en est avec sa femme Iseult et Tristan et tout ça, là, pour les trucs, qui eux aussi se baladent, vont en Petite-Bretagne, en Bretagne bleue, comme ils appellent et tout ça. Le roi Marc veut qu'il vienne pour diriger l'église. Alors même, parce qu'on n'est pas à un point près, Vromonop, par exemple, dit, pour le convertir. Il est déjà dans le système depuis un bon bout de temps. Un système où c'est le dominant, en fait. Hein, mais bon, voilà. Et donc, Hildute vient chercher Paul Aurélien, il dit, il faut que tu ailles, quoi. Là, tu ne peux pas refuser au roi, tu ne peux pas refuser au roi d'y aller, c'est bon pour l'église. Non, on ne parlait pas de l'église comme ça, mais enfin, vous voyez, c'est bon pour notre foi, c'est bon pour la diffusion, tout ça. Alors là, il est pareil, il est récalcitrant, c'est ça que je l'appelle récalcitrant, parce qu'il ne veut pas y aller, parce que lui, il veut se consacrer à la contemplation, à la foi, enfin, à ce qui est essentiel. Il ne veut pas avoir une vie d'action. Mais en fait, ça va être tout du long comme ça pour lui. Donc, il va quand même, et ça ne lui plaît pas trop, parce que évêque, à l'époque, d'un certain point de vue, après je vais vous parler autrement d'un autre point de vue. L'évêque, c'est celui qui récoltait, l'argent des paroissiens. Ça rapportait, il avait toutes les terres. Et il régnait un peu en maître sur le pays. Comme ça a été un peu partout, quoi. Voilà. Et il profitait de sa situation. Et il veut pas de ça, il veut pas de ça. Et c'est là qu'il dit... ah non, je ne veux pas, je voudrais une cloche, je voudrais partir de l'autre côté de la mer. Ah non, le roi ne veut pas. Et donc, il s'enfuit. Il s'enfuit en bateau, bien sûr, parce qu'il circulait beaucoup en bateau. Et il est sous la protection aussi du dragon. Le dragon est toujours dans les armes du Pays de Galles. Hein. Dans les armoiries du Pays de Galles. Hein. Donc, il s'enfuit. Alors, probablement que c'est de là qu'on peut expliquer la fameuse barque de pierre. Vous savez, il y a des barques de pierre. Hein. Vous êtes peut-être allé voir la vallée des saints. On me voit sur une barque de pierre. Je suis retournée il n'y a pas longtemps à Dol de Bretagne pour revisiter Saint-Sanson et tout ça. Et puis parce que je suis originaire de là-bas, enfin de ma famille. Et on voit, il y a une grande barque de pierre extraordinaire. Et en fait, c'est probablement... qui est resté beaucoup plus longtemps en Irlande, des coracles. C'est-à-dire que c'était des petits bateaux caboteurs, des petits bateaux qui étaient formés avec deux couches d'osier tressé et avec une peau de bœuf, enfin pour garder l'étanchéité. Et ils avaient des voiles aussi, mais ils n'avaient pas de dérive, enfin ils n'avaient pas de quille. Donc ils avaient des silex en général, parce que les silex c'est bien, voilà, et qui faisaient le poids, et donc ils pouvaient contrebalancer la gîte, quand on les voit. Toujours est-il, il s'en va d'abord sur la côte, et il va rejoindre l'ermitage, le monastère de sa sœur Sicofolia. Alors, ils n'en parlent pas tous. Hein. Par exemple, Albert le Grand en parle, mais Vromenok, non, je n'en ai rien, oui, etc. Enfin bref, parce qu'on a essayé d'éliminer le plus possible. Il n'y a pas de femme dans cette histoire, normalement. Il n'y a pas de femme. C'est écrit pour des moines. Les moines sont très mal à l'aise avec la féminité. Donc, il va voir sa sœur, et là, il refait un miracle qu'il avait déjà fait pour Saint-Hildute. Sa sœur lui dit... d'abord, ils se quittent, ils ne savent pas s'ils vont se revoir, parce qu'il quand même, il traverse la mer. Et elle lui dit, je suis très ennuyée, parce que sur mes terres, la mer monte, et je ne peux pas... je peux pas l'arrêter, est-ce que tu peux m'aider? Il dit oui. Alors, ils vont tous les deux, main dans la main, essayez d'imaginer, là. C'est vraiment la belle des gens. Ils se donnent la main, et ils remplissent leur besace, enfin leur poche de galets. Et chacun des deux, après, puise avec la main qui est libre, et ils jettent comme ça, ils sèment des cailloux de chaque côté. Donc ça fait deux rangées de cailloux. Vous voyez, il y a deux rangées de cailloux. Et puis, quand ils se retournent, les cailloux ont grossi, ils ont grandi. C'est comme des petits menhirs, on peut dire. Enfin, la plupart des menhirs ne sont pas plus hauts que ça, hein. Il y a énormément de pierres levées qui ne datent pas des Bretons, loin de là, hein, qui datent de bien avant, même avant les Celtes. Hein. Mais enfin bon, voilà quoi. Et du coup, quand la mer veut monter, elle est pas contente parce qu'elle est un peu arrêtée et elle jette des galets entre les deux rangées. Donc ça fait une digue extraordinaire. On appelle ça N. Paul, le chemin de Paul. Eh bien, il y a N. Paul, la ligne de bas. Et qui a été détruit par une tempête il y a une dizaine d'années, et le conseil régional a aidé à reconstruire cette fois, et c'était, il n'y avait plus de miracle, donc il fallait utiliser des machines, des outils, etc. C'est à Rouen, et c'est exactement là où sûrement le dragon côté marais était là, il y a une espèce de marais, je ne sais pas si vous voyez au bout de l'île de Bas, il y a une espèce de marais, hein, qui donne sur la mer d'un côté, qui va du côté du terrain de camping, on va dire, de l'autre côté. Et là, c'est un marais avec toutes les jouissances des marais, c'est-à-dire qu'on peut s'enfoncer, il y a des bestioles qui nous piquent, etc. Et là, c'est, on pourrait dire, le côté du dragon du marais, c'est le dragon qui nous enfonce, dans lequel on s'enlise. C'est nous quand nous sommes en train de piétiner dans nos soucis, et plus ça va, plus on y pense, plus ça va, plus on piétine, plus ça fait les sables mouvants. Hein? Et puis on s'enfonce là-dedans. Il faut se coucher dans les sables mouvants. Il faut se coucher. Sans blague, hein. Il ne faut pas peser de tout son poids. Mais il faut se coucher. Moi, j'ai mon beau-père, s'est couché à Trégondaire une fois qu'il a été pris en hiver dans une brume terrible où il ne voyait même pas trop. Il a attendu que la mer monte pour savoir dans quel sens il fallait qu'il aille. Et dans un truc où il s'enfonçait pas loin du pont de la Corde, entre Trégondaire et le pont de la Corde. Je dis pour les gens qui habitent dans le coin. Et donc, il s'est couché pour ne pas, il avait froid pourtant, hein, pour savoir où aller et ne pas s'enfoncer. Et ma mère, qui a gardé des moutons dans les prés salés autour du Mont-Saint-Michel, à partir de Saint-Georges en Gréagne, elle connaissait très bien ça aussi. Donc, là, le dragon est là, parce qu'il y a le dragon des eaux, le dragon, enfin, la face des draps, le dragon du feu, le dragon du fond de la terre, les tremblements de terre, etc., pour le côté mauvais, si on peut dire, mais il a très bon côté aussi, et le dragon de l'air. Donc, il y a N. Paul à l'île de Bas. C'est quand même fantastique d'imaginer que ces légendes et cette explication que les gens donnaient de ce qu'ils voyaient, mettons, ça a été raconté au 9e siècle, oui, parce qu'ils prédisent que les Vikings vont arriver, mais ils sont déjà arrivés, eux, quand ils écrivent. C'est déjà du passé. Mais eux, ils prédisent l'avenir. Puisqu'ils se placent du côté de Paul Aurélien. Et donc, ils voient cette espèce de digue. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs en Bretagne et de l'autre côté, au Pays de Galles. Et en Cornouailles, et enfin, partout où la mer monte. C'était des espèces de digues. Peut-être qu'on en refera d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, une façon moderne de faire. Quoi. Des trucs pour essayer d'arrêter la mer. En tout cas, il arrête la mer et ça devient un polder extraordinaire. On peut semer du blé. et beaucoup d'orge et de seigle, etc. Et donc, il crée la richesse de Sicofolia et de ses filles, comme on dit, c'est ses filles. Et on ne sait pas si elles ont des hommes, parce qu'à l'époque, les moines se mariaient dans l'église celte. C'est l'église romaine qui les a, je dirais, squeezés pire que ça, puisque c'était lors d'un concile à Autun qu'ils ont récupéré toutes les femmes et les enfants des chrétiens bretons, on va dire, et ils les ont vendus, les ont mis en esclavage et vendus pendant que les hommes étaient en train de discuter au concile. Et donc, parce que c'était insupportable qu'ils soient mariés avec une famille. Et encore plus que les femmes se mêlent d'enseigner, de pratiquer, enfin, des rites, etc. Donc, il y a ce passage, c'est la seule femme qui n'est pas disparue complètement. Tous les autres, ils ont réussi. Et là, il fabrique ses vaisseaux, parce qu'on dit que quand il arrive à Ouessant, parce qu'il va arriver d'abord à Ouessant, il voit avec les courants, c'est pas difficile de traverser la Manche dans ce sens-là, depuis le Pays de Galles, à condition de calculer les marées, le vent, on peut partir le matin et arriver le soir. En plus, il n'y a pas ce qu'il y a. Moi, j'ai traversé à la voile, c'est pas facile parce que maintenant il y a les rails. Et il y en a deux à traverser. Et je peux vous dire qu'on les voit passer là, ils ne nous voient pas. Parce que normalement, les bateaux à voile sont prioritaires, les bateaux à moteur. Non, ils n'ont rien à foutre, de toute façon, personne ne regarde ces pilotes automatiques et tout ça. Et ils vont très vite. Quand on les voit, quand ils sont à vue, on a intérêt à calculer avant que. Parce que nous, on n'avance pas vite. Avant qu'ils arrivent dans. Enfin, il y a un rail comme ça, puis après, on traverse encore plusieurs lieux, hein, et puis après, il y a le rail dans l'autre sens. Ils se croisent pas. Donc, il s'en va et il atterrit à Ouessant. Il atterrit à Ouessant, il dit, bon, ben voilà, c'est bien. Alors, on dit dans un des textes, il arrive avec toute sa famille, tous ses esclaves. Oui, il a eu des esclaves, quoi. C'est marrant parce qu'on dit toute sa vaisselle, pratiquement, quoi. On n'a pas du tout la même conscience. Nous, maintenant, peut-être qu'on a les yeux complètement bouchés à certains trucs. Et dans quelques siècles, on dira, mais enfin, quand même, mais quand même. Eux, ils ne voient pas. Tous les textes d'Antiquité, tout ça, ils ne parlent jamais des esclaves. Hein. Est-ce que c'est des humains? On ne sait pas. Et encore, en plus, c'était encore pire. Ce n'était pas des esclaves qui avaient un changement physique. Ils n'étaient pas noirs, par exemple, ou avec des yeux bridés. Ils étaient exactement les mêmes. Mais voilà. Il arrive à Ouessant, alors il installe tout de suite. Alors là, on dit qu'il fait des huttes d'herbe, enfin recouvertes d'herbe. Il faut dire à Ouessant, il y a du vent. Donc c'est des trucs au ras du sol. Il est là, il fabrique encore son ermitage, encore 12 cabanes, enfin, etc. Alors, on ne sait pas les autres là ce qu'ils font. Hein, et l'ange arrive. L'ange. Il connaît l'ange depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est petit, il entend une voix qui lui dit, tu vas pas devenir un comte, tu vas étudier, va ici, etc. Et il écoute plus ou moins. Des fois, il n'a pas envie d'écouter. Un petit peu comme Jonas, oui. Jonas, il se dit, oh non, 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 je vais pas aller. Je ne veux pas aller faire le prophète, je vais me faire zigouiller. Je n'en veux pas. Pratiquement, il fuit en bateau aussi. C'est beaucoup des histoires de bateau. Et il tombe dans la mer, il tombe dans le ventre de la baleine. Voilà. Là, il est peinard. Mais elle le recrache. Donc, il se dit, bon, bah d'accord, je vais traverser. Alors, dans certaines versions, il va à Molène. Mais c'est le même truc. Il fabrique son truc. Quand c'est fait, on le laisse bosser. Ça rappelle les histoires des Tibétains, Minarepa, Marpa, etc. Faire monter de l'eau, par exemple, monter de l'eau au sommet. Le maître lui dit, apporte-moi un grand seau d'eau, enfin deux grands seaux d'eau. Et quand l'eau est là, le maître verse par terre et puis il dit, va chercher de l'eau. C'est la version sur la persévérance et la ferveur. En gros, c'est ça. Donc, bon, il quitte et il arrive du côté de Landpol. Land, c'est le pays, enfin le monastère, Landpol, le Pic-Pol. Il y en a plein dans la. Je vais pas aller, je vais arrêter direct à Saint-Paul, hein, parce que sinon. Et à chaque fois, on lui dit non, non, c'est pas là. Et il traverse le pays, tout le nord de la côte Finistère. Hein, parce que c'est là que ça se passe, ils sont en face de l'Angleterre, quoi. Il arrive ici. Ici, il y a quand même un camp, un ancien camp de légionnaires. D'où le mot Léon. Léon, comme en Espagne. C'est de là que ça vient. Ça vient pas de Lyon, ça vient de la Légion. Et c'est le peuple des Osismes qui était là. Et il y avait les Romains qui étaient installés sur une butte, la butte où se trouve la cathédrale, Super-U, on va dire, ici, quoi. En gros, quoi. Ils sont sur une butte. Et ils ont édifié des murs en terre, mais quand même pas, ils ont édifié des trucs. Mais c'est reparti à l'état sauvage, comme le pays, en fait. Hein. Ça raconte le pays. Alors lui, quand il arrive là, il...